À l'occasion du 8 mars, nous interrogeons des femmes d'horizons différents, mais avec un vécu en commun. Ce vécu, c'est celui de leur place dans la société. Et aujourd'hui, ça tombe bien, car nous allons parler de femmes connues grâce à l'association des cueilleurs d'histoire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez exposer à la bibliothèque de Fécamp. C'est une exposition de broderie où nous allons découvrir de nombreux profils de femmes. Mais de qui s'agit-il ?
Alors effectivement, c'est une exposition qui actuellement a lieu à la bibliothèque de Fécamp. C'est la deuxième édition en fait du projet et qu'on réalise avec la maison de quartier du Ramponneau. Et là, l'idée, c'était plutôt de parler de femmes scientifiques, des profils très très variés, mais ce sont toutes des femmes et toutes elles ont une activité scientifique. Donc on a une astronaute, on a la première gynécologue, Agnew Dis, on a des femmes qui ont travaillé sur le développement durable en plantant des arbres. Enfin, on a vraiment un panel assez varié d'une quinzaine de femmes scientifiques.
D'accord. Et pourquoi la science l'a emporté sur d'autres profils?
Bon, disons que la première édition, c'était toutes les femmes. Enfin, il n'y avait pas de profil prédéfini. Il se trouve que c'est un projet que je mène à Fécamp. Donc, c'est la deuxième édition, comme je le disais, mais je le mène dans d'autres structures avec d'autres publics. Et puis, en fait, je trouvais intéressant de se dire, bah, tiens, on va essayer de sérier un peu. Donc, on peut avoir les sportives. Là, je vais faire les sportives bientôt. J'ai fait des artistes. Et je me disais que les scientifiques, à un moment où on entend quand même la petite musique où on entend que les jeunes filles à l'école ne font pas forcément de sciences, enfin, peuvent être très bonnes en sciences jusqu'en gros à la fin du collège, et puis après, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, elles lâchent plus facilement les sciences que les garçons. Et ben, je trouvais intéressant de dire, bon, ben, on va mettre l'accent sur des femmes scientifiques et montrer qu'il y a des possibilités de très belles carrières dans ces domaines-là.
Et comment vous avez eu l'idée de faire de la broderie? Pourquoi ça a été ce format-là choisi pour l'exposition?
Alors, il se trouve que ce projet, en fait, il a le démarrage du projet, c'est que ma mère, qui habite à Toulouse, l'a mis en place. Elle m'avait dit, bah, voilà, je fais un projet de broderie avec voilà, des femmes autour de moi, est-ce que ça t'intéresse? Et donc, on brode des femmes qui ont marqué l'histoire. Donc, la broderie, ça vient de là. C'est-à-dire que moi, j'ai pas... Au sein des cueilleurs d'histoire, ce n'est pas notre activité principale, hein, parce que les cueilleurs d'histoire, nous, on cueille des histoires. Donc, c'est plutôt les mots qui en général, vont nous intéresser. Mais j'ai fait ce projet-là donc, avec ma mère, que j'ai trouvé très, très agréable. C'est-à-dire que moi, j'avais brodé quand j'étais petite, mais je n'avais jamais rebrodé depuis. En fait, c'est une activité qui est vraiment très agréable, qui est très reposante, où on prend du temps pour soi, où on peut se vider l'esprit et en même temps penser à autre chose, on peut écouter de la musique, on peut écouter des podcasts. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très, très reposant. En même temps, c'est une activité qui est très féminine. Enfin, majoritairement, ce sont des femmes qui brodent. Et là, ça revient à la mode là, depuis quelques années, mais ça a été longtemps considéré comme une activité un peu désuète. Une activité un peu de mamie, en fait, de broder je sais pas, des fleurs, des napperons. Donc, j'aimais bien l'idée de se réapproprier ce médium-là. Donc, ça, c'est voilà, deux raisons. Et puis, la troisième raison, c'est que dans le groupe des femmes avec lesquelles on a travaillé, et notamment à la maison de quartier du Ramponneau, en fait, c'était des femmes d'âge assez divers. Je pense que la plus jeune avait une vingtaine d'années et puis la plus âgée, plus de 80 ans. Et en fait, c'est parmi les femmes les plus âgées, il y a vraiment un savoir-faire en fait en matière de broderie. Elles ont appris à broder à l'école, pour certaines d'entre elles en tout cas, elles ont appris à broder à l'école. Donc vraiment, il y a un savoir-faire. Et du coup, je trouvais aussi assez intéressant l'idée qu'elles puissent donner des conseils aux plus jeunes qui n'avaient jamais brodé.
D'accord.
Voilà, donc c'est et puis quand on brode, en fait, on peut discuter. Donc c'était aussi l'occasion de discuter de qui étaient ces femmes, de ce qu'elles avaient fait. C'est une activité au long cours, en fait, la broderie. Faut pas une broderie en une heure. Il faut prendre un petit peu d'élan et accepter la patience, en fait.
Oui, exactement. Sur votre site, on lit que la broderie, ça a servi de prétexte en fait aussi pour se réunir et parler de sujets divers comme l'éducation, les relations hommes-femmes, etc. Et qu'est-ce qui en est ressorti justement de ces discussions? Est-ce que vous avez eu la surprise ou non d'avoir beaucoup de choses en commun? Des sujets qui reviennent en commun?
Dans les discussions, vous voulez dire?
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent?
Oui, voilà.
Ouais, oui, évidemment, il y a forcément des sujets. Le point de départ, c'est ces femmes qui ont marqué l'histoire et pour certaines d'entre elles, qui ont été effacées de l'histoire. C'est-à-dire des femmes qu'on va redécouvrir aujourd'hui, qui ont été effacées comme plein de femmes. Hein. C'est-à-dire que, notamment chez les scientifiques d'ailleurs, hein, le travail n'était pas forcément reconnu, était approprié par des hommes. Donc le point de départ en fait des discussions, c'était ça. On parlait de ces femmes brodées, de ce qu'elles faisaient, de ce qu'elles avaient pu découvrir, et puis ça pouvait donner lieu à des impressions ou des choses vécues. Je pense par exemple là, il y a une femme d'Afrique de l'Ouest, qui a planté alors pas elle toute seule évidemment, mais en tout cas son organisation a planté des centaines, des milliers d'arbres. Et donc il y a eu des discussions autour de ça. Qu'est-ce que c'était que planter des arbres? Qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, ça permettait d'aborder des sujets assez divers. Et puis du coup, les filles qui étaient là lors des ateliers broderie, forcément, à un moment, elles vont parler de leur rapport à la nature, de est-ce qu'elles aiment aller se balader en forêt ou plutôt au bord de la mer. Bon, à Fécamp, ils trouvent que c'est plutôt au bord de la mer. Mais en fait, de voir ce que ces femmes avaient pu mettre en œuvre, y en a une qui s'appelle Temple Grandin, qui est une femme autiste et qui a toujours été poussée pour faire des études. Donc, elle a fait des études supérieures. Et cette femme, elle a inventé notamment une machine, la machine à câlin. Et ce qui était assez intéressant, c'est que parmi les femmes qui étaient présentes, il y avait des mères d'enfants autistes. Donc c'est aussi des outils, c'est aussi un outil en fait pour dire il n'y a pas de fatalité en fait. Je ne dis pas que c'est simple et que la broderie de femmes qui ont marqué l'histoire va tout régler, mais c'est aussi une façon d'avoir des modèles. Ouais, je pense que c'est le bon terme, c'est-à-dire de se dire OK, c'est pas parce que à un moment donné je suis dans cette situation ou mon enfant est dans cette situation que c'est fini. Y a vraiment l'idée des modèles. Je pense à une autre femme, alors c'est un peu moins le cas sur Fécamp, mais une femme afro-américaine du 19e siècle, hein, 1864-1902, c'est date de naissance et de mort, qui s'appelle Eliza Ann Grier. Et donc une femme afro-américaine, c'était la première médecin femme afro-américaine. Et pour des gens qui, des, notamment des jeunes filles qui françaises d'origine africaine, peut-être que être médecin, ça peut paraître très lointain ou inaccessible. Mais le fait d'avoir des modèles, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc on a pu avoir des discussions comme ça autour de ces femmes et de ce qu'elles avaient pu faire. Puis après, ça n'était pas que studieux et didactique, hein, parce que sinon ça peut être un peu longué. Après, on parle de la vie comme elle va, des problèmes qu'on peut, des problèmes familiaux, de ce qu'on a fait le week-end. Enfin, c'est aussi assez léger. C'est des moments qui sont assez légers, notamment à Fécamp. Enfin, moi, j'adore aller à la maison de quartier du Ramponneau. Je sais que je vais bien me marrer en fait. Il y a un côté très agréable de ce groupe qui se retrouve toutes les semaines pendant à peu près 2-3 mois. Voilà, on apprend à se connaître et puis on a un petit café et puis on parle de la vie telle qu'elle va. Et parfois avec des sujets qui sont effectivement un petit peu plus graves.
Oui. Et justement, pour revenir à l'exposition, pourquoi vous pensez que les femmes ont été moins mises en lumière dans l'histoire, notamment les femmes scientifiques?
Je ne saurais pas trop... Je ne pourrais pas trop répondre à cette question-là. Je suis probablement pas la mieux placée. Je pense qu'on est dans un système où le patriarcat a été très très présent, continue de l'être beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes femmes et hommes, mais surtout femmes qui essayent d'amener l'égalité dans la société. Donc refaire découvrir ces femmes, ça fait partie en fait d'amener de l'égalité. Bon, après, enfin, la question de pourquoi elles ont été effacées de l'histoire, enfin, je pense qu'il y a énormément de littérature sur le sujet. Mais voilà, enfin là, j'ai envie de parler de l'expo sur ces femmes qui ont été brodées, en fait.
Oui, justement, combien de temps on prend pour créer un profil, par exemple?
Alors, il faut d'abord trouver ces femmes. Donc, ça nécessite pour nous au sein de l'association de faire des recherches, voilà, trouver d'avoir des profils assez variés, de faire en sorte que ce soit des femmes qui soient de tous les continents et ne pas être occidentalo-centrées, de trouver des photos où ces femmes ne soient pas nécessairement des jeunes femmes. Alors ça, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que moi, j'ai à cœur de dire, il faut pas que ce soit que des jeunes, jolies, fraîches, jeunes femmes, parce que c'est pas la vie, elle est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours jeune, jolie et fraîche. Donc moi, je tiens vraiment dans les représentations de ces femmes à ce qu'il y ait tous les âges. Il ne s'agit pas de dire il faut que des vieilles femmes, mais c'est important que toujours hein, sur cette question de la de la de la des modèles et de la représentation, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des femmes de tous les âges. Donc il faut que je trouve des photos de ces femmes à tous les âges. Une fois que j'ai les photographies, il faut qu'elles soient dessinées. Donc il y a quelqu'un qui dessine ces femmes. Après, il faut les reporter sur une pièce de tissu. Et puis là, j'arrive à la maison de quartier. Tout ce travail-là se fait en fait un peu en cachet. Et à partir du moment où j'ai toutes ces femmes reportées sur une pièce de tissu, eh bien, j'arrive en atelier. Et là, les participants, participantes, pour cette deuxième édition, c'était que des participantes, vont choisir qui elles veulent broder. Et j'insistais là sur cette question d'avoir des visages jeunes et moins jeunes. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je demande aux participants et participantes de choisir, non pas en fonction du dessin, mais en fonction de ce qu'a fait la personne. C'est-à-dire, je dis, bah voilà, un tel, elle est gynéco, un tel, elle est médecin, un tel, elle a travaillé sur l'autisme. Je ne montre pas l'image, en fait. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que très souvent, quand on montre les tissus avec le dessin, eh ben, les vieilles femmes, en fait, elles ne sont pas choisies. C'est-à-dire que tout le monde a envie de broder une jeune et jolie jeune femme. Donc maintenant, je fais vraiment choisir en fonction de la spécialité. Et puis après, bah, ce sont des ateliers qui durent 2 bonnes heures. Et il y a peut-être 6 ateliers pour faire une broderie. Après, tout dépend aussi du détail, c'est-à-dire qu'il y a des brodeuses qui sont plus expérimentées, qui vont mettre beaucoup plus de détails, qui vont mettre des perles, qui vont faire beaucoup plus de cheveux, et puis des brodeuses qui sont moins expérimentées, qui vont faire les contours sans forcément rentrer dans le détail. Il y a des brodeuses qui prenaient leur ouvrage chez elles, donc qui travaillaient en plus chez elles. Mais en gros, avec 5 ateliers d'à peu près 10 heures, de 2 heures, pardon, donc à peu près 10 heures, voilà, c'est ça. Si pour vous donner une réponse, la broderie, c'est à peu près 10 heures. Et puis après, une fois que ça c'est fait, on a fait un atelier où j'ai demandé à celles qui en avaient envie de faire les biographies. Parce qu'il y a une petite biographie sous chaque broderie qui explique qui est cette femme et ce qu'elle a fait en fait. Et donc voilà, certaines des participantes ont accepté de faire ce travail. Et puis après, il y a un travail d'encadrement parce que c'est vraiment très très important pour nous de les valoriser, ces broderies et donc ces femmes. Et donc voilà, on veut leur mettre un bel habillage. Et ça prend aussi du temps de faire cet encadrement.
Oui. Et
Donc là, c'est un projet, je sais pas, qui s'est, si on prend le tout début jusqu'à l'exposition, c'est un projet qui s'est étalé sur 6 mois à peu près, à peu
d'accord.
près 6 mois.
Et vous faites des interventions aussi dans des écoles et des collèges. C'est important pour vous de transmettre ce savoir?
Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un projet en fait qu'on a initié à Fécamp. Hein, la saison 1 des brodeuses, c'était, je crois, en 2003, si je ne me trompe pas. Donc, il a vraiment été initié à Fécamp. Il s'est vraiment super bien passé. Enfin, c'était génial. Enfin, il y avait beaucoup de participantes. C'était, enfin, vraiment des très, très, très bons moments. Des très belles surprises quant à la qualité, en fait, de ce qui avait été produit. Et puis, mais c'était avec des adultes. Et du coup, j'avais un peu envie de voir comment ça pourrait se passer. Des adultes et plutôt des femmes. Il y avait deux hommes au début, puis il y en a un qui a abandonné. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner avec des ados. Donc, en fait, je l'ai proposé dans des collèges. Et donc là, j'en suis à la troisième édition, dans des collèges, avec des classes de quatrième, troisième. Donc, j'étais pas, je me disais, oh là là, comment ça va réagir? J'appréhendais notamment la réaction des garçons. Je me disais, oh là là, déjà brodé, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de fille, là, c'est pas question que je brode. Et puis, je me disais qu'ils allaient aussi un peu me challenger sur, ah, mais pourquoi est-ce qu'on brode des femmes et pas des hommes? Et en fait, absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a zéro question sur le fait de, enfin, zéro remarque sur le fait de broder. C'est une activité en fait qui est tellement calme et posée. En fait, elle convient à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de plaisir. Et puis on voit l'ouvrage qui avance. Il y a un résultat en fait. Donc ça, je pense que pour les gens, c'est assez agréable. Pour les ados, je fais un point hyper simple. Hein. Je ne propose pas le même point que pour les adultes. Je fais un point très simple pour qu'ils sachent faire. Et puis c'est aussi, donc c'est l'occasion effectivement de parler de ces femmes et de ce qu'elles ont fait, puisque eux aussi font des biographies. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre en fait. Autant avec les adultes, toutes savent enfiler une aiguille dans le chat d'une aiguille, faire un nœud et penser qu'il faut piquer derrière l'ouvrage si on veut pas que le nœud se voie. Autant avec des ados, je me suis rendu compte que ben, la majorité d'entre eux n'avaient jamais touché ni un fil, ni une aiguille, ni fait un nœud. C'était vraiment une découverte. Donc, j'étais très contente en fait qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable. Je me suis dit que si un jour ils avaient un bouton à recoudre,
Oui.
ben, ils sauraient comment faire.
Oui.
Voilà. Mais en tout cas, oui, le fait de transmettre, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Et c'est toujours cette question des modèles. Et notamment pour des collégiens, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des modèles auxquels oui, pouvoir se référer, en fait. Là, je viens de le faire sur des artistes et j'étais donc parmi les artistes, il y avait Marjane Satrapi, qui est une bédéiste iranienne. Et en fait, j'étais hyper contente parce que l'élève qui avait choisi cette femme ne la connaissait pas et donc est allée prendre au CDI deux ou trois BD de cet artiste. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant voilà, d'ouvrir un peu les horizons.
Et justement, l'exposition, du coup, c'est à la bibliothèque de Fécamp pour observer toutes ses œuvres. C'est à partir du 8 mars et c'est jusqu'à quand?
Alors non, en fait, à la bibliothèque, elle est déjà en cours
Ah, elle est déjà
jusqu'au
en
8
cours.
mars. Ouais, elle est
D'accord,
en
donc c'est
cours.
jusqu'au 8 mars.
Ouais, c'est jusque. En fait, en fait, je vais la démonter, mais je la remonte ailleurs. Donc voilà, les gens, s'ils n'ont pas le temps d'aller à la bibliothèque, il n'y a pas de souci. En fait, je vais la démonter le 9 mars, le lundi 9 mars, mais je la remonte aussitôt à la maison de quartier du Ramponneau le 9
D'accord.
mars. Donc en fait, elle est visible jusqu'au samedi 7 mars à la bibliothèque. Elle sera visible à la maison de quartier à partir du 9 mars, pendant
D'accord.
environ un mois.
Ok, et eh bien très bien, bien les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup d'être passé au micro de Radar.
Merci à vous pour votre invitation.